Chapitre 12. Eudoxie s'embrouille. Le grand hall du château Pompadour avait été transformé en une salle de spectacle très élégante et l'auditoire, assis bien à l'aise sur des chaises de jonc doré, comptait au moins 300 personnes, choisies parmi les électeurs influents, commerçants et journalistes, avec leurs familles. La scène occupait toute la largeur du hall. Derrière le lourd rideau à franges, Pierre attendait dans un décor représentant le bureau du chef de gare à Bellegarde. Le trac des débutants le serrait à la gorge. Lucette, les deux mains sur l'épaule de son mari, lui chuchotait des encouragements. « Mais sauve-toi donc, ma petite !» dit Pierre un peu énervé. « Si le rideau se lève et que tu sois vue du public, ça nous fait un fiasco pour commencer. »« Bon, je m'éclipse. Courage et succès !» Elle disparut dans la coulisse et Pierre restait seul avec son trac, maudit une fois de plus la faiblesse qu'il avait eue de consentir à s'exhiber. Son rôle, qui ne lui laissait pas un instant de repos pendant les trois actes, était écrasant. Mais du moins, pensait Pierre avec quelque ironie, je peux jouer mon rôle naturel puisque c'est un rôle d'aveugle, tandis que mes camarades sont obligés de jouer comme s'ils y voyaient. « Vous êtes là, monsieur Royat ?» soufflait le chef de gare, c'était Bourgin, entr'ouvrant la porte du fond par laquelle il devait faire son entrée. « Toussez un peu pour que je me repère. Il ne faudrait pas que je tombe sur vous. »« Pas si haut, Bourgin, on vous entendra dans la salle. »« Ah bon, me voilà fixé. Vous êtes à gauche du pupitre, pas ? On peut frapper les trois coups. » Le rideau se leva. À l'instant même, des applaudissements éclatèrent, si bien que Pierre, décontenancé, ne savait s'il devait saluer ou bien ignorer ses encouragements. Il prit ce dernier parti. Il commença aussitôt son monologue explicatif, exposa la situation ennuyeuse que lui faisait cette fermeture de frontières intempestive. Il se parlait comme à lui-même, des murmures de sympathie dans le public lui prouvèrent aussitôt que le contact se faisait. Le chef de gare entra, sans une hésitation, de sorte qu'on chuchotait dans la salle. « Il n'est pas aveugle, celui-là. Ce n'est pas possible. »« Si, si !» faisait Madame Bougnat avec une sorte d'orgueil risible. « Les neuf acteurs sont aveugles. Ils ont tous du 100% d'invalidité. »« Ah, faisait-on, ce que la race française est intelligente tout de même. Voyez comme ces garçons se débrouillent, et comme ils sont gais !» « Écoutez-moi celui-ci qui se plaint que sa gare est embouteillée. » Un homme d'équipe arriva, puis Popol, dont le rôle était tenu par un aveugle très jeune et petit de taille. Pour corser cet acte un peu court, on y mettait la première exhibition de la montre à sonnerie, autour de laquelle chacun se pressait. Et pour l'entendre, quand Pierre la fit sonner, il s'établit dans la salle un silence où les petits coups argentins s'égrenèrent distinctement. Comme le dialogue supportait un peu d'improvisation et que le public était encourageant, les acteurs en mirent un coup, comme disait Bourgin, et ils se laissèrent aller à leur verve. Popol exagéra sa petite canaillerie et son maboulisme, et quand il exigea d'avance 20 sous pour sa course, des voix dans la salle demandèrent si c'était pas dégoûtant d'estamper un grand blessé. Un mouvement de défaveur se dessinait contre la gare de Bellegarde et son personnel. Par contre, Pierre était continuellement interrompu par des applaudissements. Les notables de Saint-Ouen et leurs épouses n'étaient pas des gens blasés par le théâtre, ils entraient dans l'esprit de la pièce, dont le réalisme d'ailleurs était impressionnant. Quand le rideau se baissa sur le premier acte, la petite troupe tenait son succès. Le second acte était divisé en deux tableaux, la chambre louée chez Zanzouli, la boutique de Zanzouli. Quand Courtois parut en scène, sa qualité de turc indiquée par un fez posé bien en arrière sur sa tête, il y eut un léger remous au fond de la salle. Quelqu'un se dressa comme pour mieux voir, une chaise tomba et le public fit « Chut !» avec irritation. Madame Bougnat se retourna majestueusement. Elle vit que c'était son chauffeur qui avait l'air de chercher à sortir, mais qui n'en venait pas à bout, coincé qu'il était dans un angle près du piédestal d'un haut lampadaire. La patronne fit un signe impérieux à son subordonné pour lui enjoindre de ne pas troubler le silence, Alors il retomba sur sa chaise, mais son cou allongé, ses yeux braqués sur la scène, ses traits pétrifiés indiquaient que ce n'était pas l'ennui qui l'avait poussé à s'enfuir. Eudoxie fit sa première apparition pour installer Pierre dans la chambre. Sa personne exiguë et falote, ses gestes anguleux, mais aussi sa voix chaude, sa naïveté, le quelque chose de comiquement maternel dans la protection dont elle enveloppa tout de suite le soldat aveugle, tinrent aussitôt les spectateurs dans un étonnement amusé, puis charmé. Cependant, Eudoxie, par instant, semblait oublier son rôle. Une pause d'un instant, un regard vers le fond de la salle semblant viser quelqu'un, une phrase jetée trop haut, une sorte d'interpellation. « Zanzouli ! Pourquoi être venu chez Zanzouli ?» Ces petites dissonances gâtaient les faits. La petite a du talent, elle est nature, mais elle joue trop pour la salle, fit un journaliste. Elle joue pour quelqu'un dans la salle, son ami de cœur sans doute, dit un voisin du chauffeur s'adressant à lui. Par moments, ma foi, on dirait que c'est vous qu'elle fixe. Le chauffeur ne répondit que par un mouvement confus et plongea comme pour ramasser quelque chose. Sur la scène, les choses allaient leur train. Zanzouli, sinistre dans sa boutique, servait un client qui achetait des petits miroirs et des confitures de roses et les payait en gros sous, tandis que Février, garçon de boutique, échangeait des propos avec Eudoxie et avec Pierre, assis dans un coin. « Cela, c'est un document sur le trafic du cuivre à la frontière, » dit le voisin du chauffeur. Et ce voisin n'était autre que le commissaire de police du quartier. « On a bien exagéré, » murmura le chauffeur. « Vous dites ?»« Je dis qu'on exagère. »« Quel diable d'accent avez-vous ?» fit brusquement le commissaire. « Vous n'êtes pas français ?»« Je suis de la République argentine. Je suis le chauffeur de M. Bougna. » « Ah, très bien. Et je vois que la pièce vous intéresse. D'où veniez-vous avant d'être chauffeur ici ?»« De nulle part. C'est-à-dire, j'ai été chauffeur à Lyon, à Marseille. J'ai mes certificats. Sans ça, M. Bougna m'aurait pas embauché. »« Tous vos papiers sont en règle, sans doute, » demanda encore le commissaire. « Comment vous appelez-vous ?» Mais en cet instant, l'entourage protesta contre cette petite conversation à mi-voix et la réponse du chauffeur fut un murmure inintelligible. Comme l'acte 2 était décidément chargé, les acteurs décidèrent que la scène nocturne ferait à elle seule un acte 3 et on le développa sans mesure. De sa place, le chauffeur hypnotisé pouvait voir tout au fond de la scène l'arrière-cuisine où Eudoxie guettait, tandis qu'un Turc silencieux, furtif, s'approchait du lit du soldat, cherchait la montre sur la table, puis allait entr'ouvrir les volets pour donner à croire que le voleur était entré par là. Le chauffeur respirait par saccades. Il s'essuya le front, car des gouttes de sueur froide perlaient au bord des cheveux. Il reculait dans son coin, ses gros yeux noirs cherchaient une issue. Le rideau tomba un instant. Ce fut alors le matin, Eudoxie parut avec un plateau. Pierre, en se réveillant, chercha sa montre. La salle indignée trépignait. « Le sale Turc ! Ah, la fripouille ! Dire qu'on a eu de cette vermine-là pendant toute la guerre ! Mais voyons, qu'est-ce qu'elle attend pour le faire pincer, cette petite bonne qui a tout vu ?» Alors, dans un mouvement spontané, Eudoxie se tourna vers les spectateurs impatients. « Mais attendez donc, » fit-elle, « on le pincera, je le lui dis qu'on le pincera. Il ferait mieux de se cavaler en vitesse. »« Non, je ne voulais pas dire ça, c'est pas dans la pièce. » Elle s'embrouille, elle perd la tête, c'est la gloire qui l'a fait délirer, chuchota un petit reporter qui prenait des airs de grand critique. Cet intermède amusa le public, mais agaça Pierre qui pensait « Notre Eudoxie devient folle. » Cependant, on reprit le fil et l'acte finit sans autre encombre. Dans la coulisse, pendant l'entracte, Eudoxie, qu'on assaillit de plaisanteries et de petits reproches, prit des airs si mystérieux à la fois et si supérieurs que même son humble adorateur Février en fut un peu choqué. « Tout de même, mademoiselle Eudoxie, faudrait pas recommencer ça. Arrêtez la pièce pour parler au public, on se fera siffler pour finir. » La pièce, c'est moi qui l'amène, et plus que vous en croyez, répondit-elle si orgueilleusement que ses camarades en restèrent abasourdis. Vous ne sentez pas un torticolis à vous monter le cou comme ça, fit Courtois railleur. Mais Eudoxie souriait imperturbable et ses yeux brillaient d'un feu extraordinaire. Elle fut très en verve jusqu'à la fin. Son entrain, sûr de plaire, se communiqua aux autres acteurs. Pierre ne s'était pas encore senti à l'aise un seul instant, mais sa gêne fondit à la chaleur du public. Lucette fut charmante, douce et maternelle en sœur Louise. Et la cornette, de fantaisie, les grandes manches lui allaient bien. Le seul défaut qu'on lui trouva, c'est d'être trop jolie pour son rôle. Zanzouli reparaissait à la fin dans le décor de la gare, et tous les acteurs alignés, le chef de gare, l'homme d'équipe, Popol, son garçon de boutique, les figurants, et Pierre, Eudoxie et sœur Louise, regardaient cette silhouette penchée qui s'enfuyait, le fez lamentablement cabossé, symbole de défaite, et à la main, un lourd sac de voyage qui tout à coup s'ouvrait et répandait dans toutes les directions des ruisseaux de gros sous. Comme les sous étaient très rares à Paris en ce moment, on avait emprunté à l'usine Gavenard une quantité de petites rondelles en laiton qui faisaient très bien l'affaire. Zanzouli abandonnait sur le quai son sac et ses gros sous, et il disparaissait, accompagné par des remarques ironiques et des souhaits de bon voyage. « Ça, c'est pas exact !» murmura le chauffeur en se faufilant hors de son coin. « Ça, je peux jurer que c'est pas vrai !»« Vous dites ?» demanda le commissaire qui avait l'oreille fine. « Oh, rien ! Je dis que la pièce était bien jolie !» Les applaudissements éclatés, les acteurs furent rappelés trois fois, Madame Bougnat, qui s'attribuait naturellement la grande part de cette gloire, devenait à chaque instant plus rouge et plus importante. « C'est nous qu'on les a découverts !» faisait-elle au reporter qui prenait ses dernières notes. « Vous mettrez le nom de mon mari, pas, et le nom du château, et tout. Vous direz que le grand vestibule est Louis XVI. Oui, je crois que c'est 16 ou 17. Au reste, un de plus, un de moins. Pour M. Bougnat, ce n'est pas d'importance. S'il avait fallu aller jusqu'à Louis XX, même 21, on y serait allé. » « Offrez-moi votre bras, monsieur, nous irons au buffet. » Le buffet était magnifique, dressé dans l'immense salle à manger. Les dames et les jeunes filles les plus élégantes s'empressaient autour des jeunes acteurs aveugles pour les servir, puis se promener à leurs bras. Lucette avait dû céder son mari et Madame Courtois le sien. Denis Février fut emmené bien loin de Doxie. Quant à celle-ci, chacun la cherchait pour la féliciter. On lui disait « C'est donc vrai, cette histoire? Vous étiez chez Zanzouli? Vous avez retrouvé la montre ?» Elle répondait distraitement, elle se dérobait, on supposa qu'elle était fatiguée. Seul le commissaire, en buvant du champagne à petites gorgées, remarquait que les yeux d'Eudoxie furetaient à droite, à gauche, en quête de quelqu'un. Dans la foule, elle s'éclipsa tout à coup et, par les grandes portes à deux battants, entre les groupes qui entraient et sortaient, elle regagna le vestibule vide où les chaises poussées dans tous les sens avaient l'apparence d'une armée en déroute. Elle s'appuya contre une colonne dans un angle peu éclairé et elle attendit une minute, sûre que le chauffeur la guettait. En effet, il surgit aussitôt de la pénombre. « Eudoxie » souffla-t-il d'une voix presque imperceptible. « Eudoxie, pour l'amour du ciel, ne me faites pas connaître. »«
Je ferai ce que je voudrai. Le ciel n'a rien à y voir. » Ou plutôt, fit-elle, frappée d'une idée subite, « c'est bien le ciel qui vous a amené ici pour entendre la pièce. » Là, juste à propos, on appelle ça une coïncidence, et c'en est une qui plaque. »
« Je vous donnerai ce que vous exigerez, Eudoxie, si vous voulez bien ne rien dire. J'ai une bonne place. J'ai déjà eu des ennuis depuis Bellegarde. La police est venue en perquisition chez moi. Alors, j'ai dû liquider mon commerce qui était si joli, qui marchait si bien. Je suis un pauvre homme ruiné, Eudoxie. Ne me faites pas perdre ma place. »«
Je verrai, monsieur Zanzouli, répondit Eudoxie. Je ne dis ni oui ni non. » En cet instant, passait devant elle Denis Février, qu'une dame conduisait dans le hall pour fumer une cigarette. Il entendit, car il avait l'oreille extrêmement subtile, ces derniers mots « Je ne dis ni oui ni non ». Et aussitôt, il imagina que Doxie avait un autre soupirant que lui. « Tiens !» fit la dame quand ils eurent passé. « C'est la jeune personne qui jouait si bien, Mademoiselle Eudoxie, je crois. Elle a choisi un petit coin bien sombre et tranquille pour causer avec le chauffeur de M. Bougnat. Ces chauffeurs, c'est la coqueluche des bonnes. Autrefois, c'était les militaires. À présent, ce sont les chauffeurs et les mécaniciens qui tiennent la corde. » « Moi, je suis mécanicien. Comme ça, je peux concourir même avec un chauffeur, » déclara Février. La dame pensa qu'il plaisantait et elle parla d'autre chose.